d'horizons mordantes, d'horizons mordantes, d'horizons mordantes, d'horizons mordantes, d'horizons mordantes.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme.
C'est une question.
Interdire le stream.
Je crois qu'il est normal qu'on demande aux jeunes filles, surtout lorsqu'elles commencent à être désirables, de... faire en sorte qu'elles ne provoquent personne.
Et quand tu seras capturé, comment tu te sauveras?
Attends, je suis ceinture noire, mon corps est devenu une arme meurtrière, je me suis transformée.
Pas de pleurs, pas de pleurs. Pas de jalousie, si tu veux on se voit une fois par semaine le jeudi.
Le silence des fois faudrait l'exécuter.
Ce que je préfère en elle.
Non mais je rêve.
C'est sa féminité.
Tiens, je ne veux pas être ta femme, ta bitch, ta boniche. Que tes négros me voient avec toi, tout ça je m'en fiche.
Il faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille.
D'horizon mordante,
d'horizon mordante,
d'horizon mordante,
d'horizon mordante.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes avec nous sur Radio Dio 89.5 FM et aussi sur le net, radiodio.org, voilà. Et alors, donc dans l'émission d'Horizon Mordante. Et ce soir, on va vous parler, comme on l'a fait un peu il y a deux semaines, de care et surtout de travail... domestique ou voilà, travail ménager, tout ça, comment ça s'organise à un niveau aussi international cette fois-ci. Et alors pour commencer cette émission, on va s'écouter Jules Falquet qui, elle, nous propose une réflexion féministe sur la migration et sur du coup les conséquences d'une mondialisation au niveau des femmes. Et voilà, et donc c'est une super manière d'introduire cette émission parce que ce qu'elle dit, c'est super intéressant. Alors voilà. C'est parti.
A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato. Lo mío pa' mi saco. Lo tuyo más barato. Mi lengua pa' mi gato. Pido bobo, candalera, escenario y aire.
Sur les flux migratoires, justement, alors la première personne à ma connaissance, enfin celle qui en général est citée comme la première qui a vraiment fait des réflexions féministes sur la mondialisation, c'est une femme qui s'appelle Saskia Sassen. Je crois qu'elle est née en Argentine, elle a vécu en Italie, aux États-Unis, je ne sais pas où. C'est une femme très intéressante et qui a une vision très globale. Elle dit, ben voilà... Le discours dominant, c'est un discours super, l'hypermobilité des élites, notamment des élites, des gens qui travaillent dans la finance, dans la banque et tout. Et elle dit, mais la mondialisation, en fait, c'est pas du tout que ça. La mondialisation, c'est aussi, il faut aussi la regarder par en bas, pas seulement par en haut. Et c'est pas seulement l'hypermobilité des cadres. Elle parle d'un truc qui... Elle parle de couple sans femme. Elle parle de couple hétérosexuel. Et dans ces couples sans femmes, en fait, celles qui sont les femelles et de sexe féminin considérées comme des femmes ne font pas le travail habituellement des femmes, c'est-à-dire ne font pas le travail domestique, n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, n'ont pas le temps de, voilà, d'avoir non plus beaucoup d'enfants, elles reportent à plus tard, enfin bref. Donc, face à ce manque de femmes dans les couples, il faut que quelqu'un fasse le travail malgré tout, et pour faire ce travail, il y a une demande de main-d'œuvre, et c'est une main-d'œuvre fondamentalement, généralement féminine, soit de la campagne, soit de pays moins riches ou plus appauvris. Donc, en fait, la mondialisation des élites, elle implique une mobilisation de main-d'œuvre, donc une migration de femmes du Sud, je dis ça pour simplifier, ou de la campagne. Il y a toujours eu une forte participation des femmes dans la migration, mais c'est vrai que maintenant, elle apparaît de manière un peu plus visible et elle se développe. Et maintenant, dans les chiffres de l'ONU, ils disent que, grosso modo, maintenant, il y a 50-50 dans les migrations internationales. Certaines personnes l'appellent le care drain, sur le même modèle que le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, l'attraction des cerveaux. Là, c'est l'attraction du care. Et il y a des gens aussi qui parlent de crise international et d'internationalisation du care, care C-A-E-R-E, qui veut dire le fait de prendre soin, de s'occuper, etc. Personnellement, plutôt que de dire care, je préfère réfléchir de manière plus large sur la reproduction sociale. C'est un peu plus, à mon avis, un peu plus large que le care. Parce que ça, le care, souvent, on voit le travail d'affection et tout, mais ils n'ont pas besoin que de travail d'affection, ils ont besoin aussi qu'on gratte par terre pour enlever les tâches dans les usines, dans les hôpitaux, enfin, il y a aussi un travail très ingrat qui n'est pas du tout un travail émotionnel, etc. Donc, souvent, ça nous est présenté comme, oui, les méchantes et dégueulasses femmes blanches occidentales de classe moyenne et supérieure, autrement dit, les bourgeoises veulent travailler et avoir des bonnes, et se décharger sur des femmes philippines ou de je ne sais pas quoi, de leurs devoirs de mère et d'épouse. Peut-être qu'il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que aujourd'hui, la plupart des femmes sont amenées à chercher un emploi rémunéré parce que de toute façon, elles en ont besoin pour vivre, et que l'État a enlevé toute une partie des services publics. Les hommes, pour la plupart, ne se sont pas substitués, ne se sont pas levés en masse pour dire « Ah, mais moi, je m'en occupe, je sors le chien, je lange le gosse, je vais faire les courses et le ménage et le machin. » Donc oui, en effet, c'est là qu'il y a une crise de la reproduction sociale. Et face à cette crise de la reproduction sociale, l'OCDE notamment et le Bureau international du travail notamment, ils l'ont vu venir, bien entendu, puisque c'est eux qui ont demandé qu'on privatise. Donc, ils ont déjà réfléchi à un certain nombre de stratégies. Et parmi ces stratégies, il y a le recours à une main-d'œuvre migrante féminine de pays du Sud. Elle pourrait aussi être un peu masculine, cette main-d'œuvre. Quelquefois, elle l'est. Mais enfin, ils ont bien logiquement pensé que personne qui accepterait, entre guillemets, de faire ce travail, ce serait surtout des femmes, quoi. Donc, en fait, c'est un truc qui est en grande partie planifié, organisé. Et le truc encore, enfin, quelque part encore plus vicieux, c'est que face à ça, donc ils auraient pu dire « Ok, on va importer de la main-d'œuvre. Soit on peut l'importer de manière officielle en donnant des visas et machin, soit on peut carrément faire des politiques migratoires de fermeture des frontières. On sait que de toute façon, les femmes et les gens vont venir parce qu'ils ont besoin ou elles ont besoin de travailler. Mais en plus, ces personnes seront sans papier. » Ce qui permettra bien sûr de faire qu'elle coûte moins cher en termes de. Voilà.
Las cosas son como son. Ariana Puello, 2003. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ves? Tú lo sabes, yo lo sé. La mierda nos llega al cuello, hijos de perra. Todo está podrido como carne de matadero. Si por decir la verdad van a acabar con medio mundo, empiecen por mí primero. A ver si pueden. Estoy empezando a cabrearme de mala manera. O no les importa o es que no se enteran. El panorama es pésimo, de África hasta México. Sin olvidar pasar por el Golfo Pérsico. Mundo disléxico de ideas retorcidas. Grande y profunda es la herida. Religiones rebuscadas que no sirven para nada. Nada más que para crear la guerra. Sea en la luna o en la tierra. El hombre ya no tiene escapatoria. Estoy hasta el culo de tantas historias. La
La vida da vueltas como una noria, de la comedia a la tragedia. La lucha por sobrevivir provoca histeria, esto es una miseria. O todo nada, nunca compartir a medias. Desde las ciudades hasta las periferias, esto no va en broma, la cosa es muy seria.
Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando nuestra vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando nuestra vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. El caos se presenta hace tiempo en forma de papel moneda.
Voilà, alors du coup, pour développer cet exemple, de ce que vient de nous raconter Jules Falquier là, sur qu'est-ce qu'on peut voir des conséquences un peu de la mondialisation et du coup, surtout de comment, qu'est-ce qui se passe avec la migration des femmes, notamment en Europe. Il y a encore plein d'autres aspects, plein de domaines en fait. Là, elle nous a plus parlé du travail ménager, mais en fait, il y a énormément de domaines où il y a des enjeux. Et alors moi, j'avais envie de vous développer un exemple qui raconte en fait le circuit de la chaîne de fabrication des plats cuisinés. Donc c'est à partir d'un article de Myriam Glucksmann. Qui explique en fait dans son article intitulé qui s'appelle Les plats cuisinés et la nouvelle division internationale du travail. Et c'est aussi extrait d'un livre qui s'appelle Le sexe de la mondialisation, genre, classe, race et nouvelle division du travail. Donc cet article, moi je l'ai trouvé vraiment chouette et il est assez compliqué, donc je vais vous en faire une espèce de traduction sommaire en fait. Alors c'est un article qui part déjà du principe qu'on a des nouvelles réalités dans nos sociétés modernes et capitalistes et que ça a un impact international. Elle part d'abord du constat d'un changement qui est important sur la manière de s'alimenter en Occident, ce qui va impliquer des transformations et une mutation de la chaîne alimentaire. Donc ça part de la production des matières premières jusqu'à ce qui arrive au consommateur et qui implique aussi le consommateur dans un changement. Du coup, ce qui est intéressant dans cet article, c'est de voir que ce type de produit qui est issu d'une industrie internationale se fait sur l'exploitation des femmes, sur des travailleurs pauvres et des personnes immigrées, et donc se repose sur l'exploitation de femmes et de personnes qui sont racisées, donc qui sont là, dont elle parle dans l'article, surtout des gens qui sont rapportés à leur nationalité et à leur ethnicité, et du coup qui sont dans des parcours souvent migratoires. Et alors donc, on va voir ça avec l'exemple des plats cuisinés. Donc cette situation, elle serait trop simplifiée de la réduire à la situation d'un transfert de travail des femmes en Occident vers un travail industrialisé. C'est aussi ce qu'on va voir dans une deuxième partie de l'émission. On peut pas juste voir que les choses, elles sont binaires, qu'il y aurait des gens qui viendraient remplacer d'autres. Tout ça, il y a plein de choses qui se font en parallèle. Et du coup, elle essaye d'expliquer la complexité de cette situation dans la production des plats cuisinés, où chaque partie du travail a ses propres répartitions vis-à-vis de certaines catégories de population qui s'inscrivent dans une histoire aussi de chaque pays. Et puisque du coup, on est sur une répartition du travail à un niveau mondial, en fait. Il y a tout plein de parties du travail, de tâches qui sont effectuées à des endroits différents. C'est le principe un peu de la mondialisation, du coup. Et donc, voilà, cette explication de la répartition, elle se fait... on peut l'expliquer par la division des tâches, justement, et par une approche globale de ce type de travail. Donc voilà, elle part sur le principe qu'il y a une nouvelle division du travail qui est liée au genre et à la mondialisation. Alors le premier travail, c'est celui qui est agricole. Donc là, on va retrouver les femmes qui sont dans la production des ingrédients de base des plats et qui sont dans les usines de conditionnement. Et là, souvent, en fait, leur travail est caractérisé comme féminin parce qu'elles ont une adresse ou une conscience professionnelle. C'est le discours qui va être porté, en fait, souvent par les patrons, en fait. Là, il y a un exemple, je peux vous citer le... Alors, où est-ce qu'il est ? Le président des exploitations de produits horticoles du Kenya, qui affirme que les femmes sont meilleures cueilleuses de haricots, leurs mains sont plus petites et elles ont plus de patience pour ce travail que les hommes. Donc voilà, on va essentialiser, féminiser, en fait, ce travail-là. Sauf que ce que rajoute, alors je vais écorcher son nom encore, c'est Myriam Glucksmann. c'est que c'est aussi un travail qui a une valeur ajoutée, en fait, parce que laver, trier, trancher, étiqueter, bah voilà, c'est aussi des travaux qui vont donner de la valeur à, aussi aux produits, et puis aussi qui sont liés à un impératif de qualité. Donc voilà, là l'article il insiste aussi sur le fait que ben, la main d'œuvre elle est liée à la disponibilité des gens et pas forcément à la qualité des personnes, donc ni à leur sexe, ni à leur nationalité comme ça va être le cas dans d'autres tâches en fait, où on va greffer les mêmes qualités féminines à des hommes qui sont migrants et qui sont du coup aussi obtiennent un peu ce statut inférieur en fait, à qui on donne des tâches plus difficiles ou très spécifiques en fait. Donc ça va être le cas. Alors il y a encore une autre tâche, ça va être la préparation. Donc ça se fait par exemple. Donc son étude, je l'ai pas dit au début, elle se fait au Royaume-Uni. Donc c'est un peu le circuit des plats cuisinés qui part de l'international et qui arrive pour être finalisé en Angleterre. Donc la préparation, elle se fait au Royaume-Uni et là elle constate que le travail il est encore féminisé, mais il commence à être ethnicisé, donc c'est-à-dire organisé dans des groupes sociaux de personnes migrantes ou installées depuis un moment, mais qui sont organisées en communauté. Et puis pour la fabrication, et ben là aussi on va retrouver ce processus-là, mais alors là par contre elle dit qu'elle a vraiment été surprise en fait, le fait de voir qu'il y avait énormément d'hommes dans les usines. Donc les usines, c'est qu'est-ce qu'ils font, je sais plus, mais ils emballent tout ça, enfin c'est
Réparer dans le conditionnement un peu.
Ouais voilà, ils sont dans le conditionnement.
Juste le produit il a été un peu transformé entre temps quoi.
C'est ça. Ouais, je me rappelle plus les détails, mais bon, c'est aussi l'idée qu'ils accomplissent des tâches répétitives en fait. On est toujours sur un travail très très ouvrier en fait finalement. Et donc là, elle observe que ben en fait il y a une grande diversité des personnes au niveau des origines des pays du monde, qui sont donc des populations migrantes qui viennent de partout. Et puis il y a la hiérarchie de l'usine qui est organisée avec les cadres britanniques, qui eux sont bien mieux payés et sont originaires et ont leurs papiers surtout. Voilà. Ensuite, encore une, dans toujours cette idée de division du travail, il y a la tâche du transport, de la distribution, de la logistique. Et là, elle observe que c'est des emplois qui sont occupés par des hommes quasiment exclusivement. Donc c'est voilà, transporter les produits, les décharger et puis organiser les entrées, les sorties des stocks, tout ça. Et puis ensuite, on a les détaillants. Donc là, c'est les revendeurs. Et là, elle appuie un peu tout ce qui se fait autour de... Enfin, le pouvoir, en fait, organisationnel des supermarchés qui, en fait, fait vraiment ce lien entre qu'est-ce qui se passe à l'étranger et qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni à ce moment-là. Y a un lien de pouvoir très, très fort sur la production et des produits, justement, des matières premières et autres, parce que c'est le résultat, il arrive pour les supermarchés, quoi. Et donc, voilà, donc elle montre qu'il y a encore toujours une division du travail qui est souvent justifiée par les industriels, par des arguments sexistes ou racistes. Et donc, elle montre bien dans cet article que le genre ou l'appartenance à un groupe social sert de prétexte pour justifier l'exploitation de certaines personnes ou pour justifier la distribution de certains travaux spécifiques. Et...
Ça veut dire que du coup, dans les deux camps, en fait, ça fonctionne comme une essentialisation de qualité. Genre, les femmes, elles sont meilleures pour ça et eux, ils sont bons pour ça, quoi. C'est ça le principe, quoi.
C'est-à-dire qu'il va y avoir un discours qui va être produit par les gens. Mais en fait, l'intérêt premier, c'est d'avoir une main-d'œuvre exploitable facilement, une bonne main-d'œuvre en fait. Et cette bonne main-d'œuvre qui est habile en fait, ou qui fait des tâches répétitives, tout ça, et ben c'est les discours des personnes qui organisent ces travaux-là, les justifient avec des trucs essentialisants. Et c'est exactement ça. Et du coup, ce qui est aussi intéressant dans cet article, c'est qu'elle associe aussi la dimension de transformation des tâches ou d'exploitation à des travailleurs qui sont aussi originaires des pays, et notamment dans ou un changement de pratique, notamment dans le moment de la consommation et de l'utilisation, puisque du coup, le travail de revente de services est aussi fait beaucoup par des femmes qui sont très précaires, comme par exemple des caissières. une caissière, voilà, c'est souvent à temps partiel et c'est souvent des femmes qui sont caissières. Et elles vont aussi, elles, acheter ces produits-là, qui ne sont pas forcément d'une grande qualité non plus en termes...
En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir consommer rapidement, quoi. Voilà. C'est le plat déjà fait, quoi. C'est le gain de temps dans ta cuisine, en fait, pour d'autres femmes, quoi.
Voilà, ça fait partie des changements de pratique et de consommation en Occident. Mais du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est si génial. Et enfin, en tout cas, nous, on peut vraiment se demander...
Et pas si émancipateur que ça, en fin de compte, voilà. Puisque ce que ça émancipe chez les unes, ça exploite chez les autres, quoi.
Oui, ça serait un peu la question de savoir si cette mondialisation, elle se fait autour d'un mode de vie et d'une demande qui est orchestrée depuis l'Occident. Et en même temps, il y a une disponibilité dans d'autres pays, comme du coup des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique du Sud, qui ont donc une main-d'œuvre qui va exploiter et du coup aussi en Occident. C'est-à-dire que cette main-d'œuvre-là, elle vient aussi de ces pays-là. Elle va être exploitée aussi en Europe et on va aussi avoir des travailleurs précaires et des travailleuses aussi beaucoup. Même si je ne sais pas si être routier aussi c'est la super vie. Hein. Enfin, voilà. Et du coup, tout ça supervisé par les supermarchés, les firmes internationales agroalimentaires et puis de transformation, tout ça. Voilà, donc c'est un article qui est intéressant pour donner cette espèce de vision panoramique et regarder ce processus tout ensemble, quoi. Voilà. Donc il s'appelle, je vous le redis, il s'appelle « Les plats cuisinés, la nouvelle division du travail » et vous pouvez le trouver dans « Le sexe de la mondialisation, genre, classe, race et nouvelle division du travail » où il y a aussi Jules Valquet qui écrit des trucs et qui a fait vraiment beaucoup de travaux là-dessus, quoi. Et alors, on pourrait s'écouter un peu de musique, qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, moi, ça me dit.
Qu'est-ce, c'est qu'on, bien, pause qu'est-ce qu'on met ?
Bah, du coup, on met Nina Simone.
Ouais, on vous met Nina Simone parce que la semaine dernière, on l'a passée. Enfin, il y a deux semaines, on l'a raccourcie alors qu'elle fait 10 minutes et que ça déchire.
Elle est trop bien, ouais.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me pray? See me down here praying, but the Lord said, go to the devil, the Lord said, go to the devil, he said, go to the devil, all on that day, so I ran to the devil, he was waiting, ran to the devil, he was waiting, ran to the devil, he was waiting, all on that day, I cried. Power.
the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, pardon me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? He said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day.
Yep, vous êtes toujours sur Radio Dio, 89.5 FM, dans l'émission d'Horizon Mordante. Et ce soir, Pob et Do, nous deux, parce qu'on ne va pas parler de soi à la troisième personne, ça fait super narcissique.
Et Lucie à la technique.
Aussi, et Béré comme invité pour nous déconcentrer la technique. Eh bien, on vous parle de care et d'autres trucs qui sont rattachés à ces notions-là. Et du coup, Pob, elle a encore des trucs intéressants à nous raconter.
Non, c'est toi qui nous parle de Pascal, Moulinier.
En fait, c'est moi qui vous parle. Alors en fait, moi je voulais vous reparler d'un article que j'avais vite fait évoqué la dernière fois dans l'émission sur le care justement, qui s'appelle « Des féministes et de leurs femmes de ménage entre réciprocité du care et souhait de dépersonnalisation ». Et c'est donc de Pascal Moulinier. Et donc dans cet article, en fait, elle explique comment elle essaye de comprendre comment perçoivent les employeuses qui se disent donc féministes qu'est-ce qu'elle perçoit en fait de cette dimension de care, du souci ou du travail attentionné? Parce que le care, c'est aussi ça, c'est comment en fait, en gros, les femmes, elles ont une espèce d'habileté à mettre du soin à la tâche ou une espèce d'amour à la tâche, vous voyez. Et donc, comment elle répond à ça? Et elle a cherché à explorer ça en réunissant en fait pendant 3 séances de 3 heures des femmes féministes qui emploient des femmes de ménage, ok? Du coup, ça a fait que le pari du groupe de discussion, en gros, parce que c'était des discussions comme ça ouvertes, elle les écoute et tout ça, et après elle prend des notes, c'était d'accepter en fait l'empêtrement qu'il y a entre cette espèce de mauvaise conscience qu'auraient ces femmes qui se disent féministes, en fait, dans le fait d'être capable en fait d'assumer justement cette relation à la femme de ménage qu'elles emploient et qui rend forcément une espèce de tension psychologique entre le désir d'être servi, parce que ça revient quand même à ça, d'avoir une femme de ménage, et le fait de surtout pas y penser, parce qu'en fait, sinon, on a un cas de conscience, en gros. Et du coup, il y a John Tronto qui en avait parlé de ça, et John Tronto, vous en avez vachement parlé, Pob, la dernière fois. Et elle appelle ça l'irresponsabilité des privilégiés, en fait. C'est comme ça qu'elle nomme cette espèce de cas de conscience, comme ça... face à ces privilèges qui nous permettent là dans ce cas-là en fait d'argent, qui nous permettent d'avoir en fait ce service de femme de ménage et du coup qui est compensé en fait par une espèce de désir de créer un lien réciproque avec cette domestique ou la personne employée comme si en fait ça allait apaiser la tension Donc, il y a une espèce de volonté de créer du relationnel avec le personnel, quoi. Et du coup, là, elle va décrypter un peu comment ça marche et du coup, comment effectivement elle relationne ou pas et qu'est-ce que ça génère. Dans le groupe de discussion, il y a, elle dit que c'est un groupe très homogène, c'est le cas. En fait, elles sont 7 femmes interrogées, elles sont toutes blanches, elles sont hétérosexuelles, elles ont entre 37 et 60 ans et elles ont un niveau d'études supérieur. La plupart sont des intellectuels avec des préoccupations professionnelles, évidemment, qui concernent le travail féminin. C'est pour ça que c'est intéressant de les interroger sur ces questions-là. Hein. Et en plus, du coup, il y a toute cette notion du personnel qui intervient, du coup, puisque c'est dans une sphère privée que les employés sont justement au travail. Et il y a cette espèce de formule magique, le personnel est politique, qui avait été développée par les féministes de la seconde vague. Et du coup, elle rentre un peu dans ce truc-là et elle essaye de décrypter ce truc-là chez ces femmes-là qui se disent féministes, quoi. Du coup, le premier moteur des discussions, ce qui en ressort, le premier moteur, en fait, qui va pousser ces femmes à avoir du personnel de maison, et c'est, en fait, la pacification du couple. C'est-à-dire que plutôt que de se confronter, en gros, à essayer d'équilibrer le partage des tâches à la maison, elles vont pallier au fait que les hommes y rechignent, en fait, en embauchant, en fait, une employée de maison, une domestique, quoi. Qu'elle, elle nomme pas comme ça, elle dit jamais domestique, au mieux elle dit femme de ménage, mais elle dit pas domestique. Hein. Donc ça, c'est la première motivation, et il y en a une qui, elle, c'est l'exception du groupe, elle dit que c'est pas parce que... Elle pense que les tâches ménagères sont réparties de façon égalitaire entre elle et son compagnon, mais par contre, comme c'est une famille recomposée, ils ont genre 5 enfants, je crois, ensemble, et du coup, elle dit que c'est vraiment une nécessité dans un truc d'être dépassée par la tâche de travail vraiment qu'il y a, mais que c'est pas un problème de répartition. Bon, enfin, il y en a une sur 7, hein, on est d'accord. Donc, les patronnes cool pour des employés politiquement corrects. Alors, l'idée, du coup, c'est qu'elles essayent, en fait, de définir un peu dans leur discussion qu'est-ce que ce serait une patronne féministe, la patronne féministe adéquate. Sauf qu'évidemment, une patronne féministe adéquate, ce serait une patronne qui n'emploierait pas. Ce serait une non-patronne. Du coup, c'est comment elles vont essayer de développer malgré tout des espèces de stratégies pour ne pas avoir la sensation d'exploiter. Donc, pour ne pas exploiter, par exemple, elles vont avoir des petites stratégies de, par exemple, elles partent avant qu'il y ait des tâches qui soient faites pour ne pas être présentes pendant que la personne les réalise. Ou elles vont dresser une liste bien complète des tâches à faire en essayant de la réduire au maximum pour pas en donner trop à la femme de ménage. Enfin, elles ont des espèces de stratégies comme ça de déculpabilisation, en fait. Et qu'est-ce que ça rend ? Ça rend que ce qui est plutôt vrai, apparemment, qui se dégage dans leur foyer, c'est qu'elles reconnaissent la qualité ou la véracité d'un travail à proprement dit, donc de ces dites femmes de ménage. Donc, il n'y a pas de compétences remises en cause. Ça, elles l'admettent toutes assez facilement, comme une évidence, et du coup que ça créerait presque un rapport égalitaire dans un truc de « elles ont ces compétences-là et nous, on en a d'autres, parce qu'elles sont plutôt dans des trucs intellectuels, mais on a des compétences différentes, mais du coup, on est toutes qualifiées, en fait, dans des registres différents. » Du coup, ça, c'est aussi une des stratégies de la déculpabilisation, en fait. C'est donc elle réalise du coup des activités plutôt intello, pendant que notre femme réalise du coup des tâches domestiques. Et du coup, les participantes à la discussion, elles s'accordent à limiter évidemment les ordres et les consignes au maximum. Voilà, pour maintenir cette espèce de paix comme ça de « je suis pas vraiment une patronne ». Et même, elles vont jusqu'à dire que par exemple, si le travail est mal fait, elles vont éviter de rentrer en conflit ou de le faire signifier justement pour pas être dans des rapports de remontrance en fait avec l'employé par exemple. Ensuite, du coup, le travail domestique qui est donc considéré comme le vrai métier, du coup, quand même, malgré tout, par ces personnes-là. Et ben, il y a, pour réduire le malaise, il y a une des dames qui est interrogée, qui explique qu'elle a une amie qui a embauché un homme, par exemple, pour compenser cette espèce de cas de conscience et tout. Elle estime que c'est hypocrite, la dame qui nous en parle. Et elle se dédouane, elle, de son rôle de patronne en disant qu'elle pourra employer en fait sa femme de ménage. Elle a recours en fait à une association qui se veut égalitariste, avec des revalorisations salariales, qui se propose d'aider vraiment les femmes isolées, d'être dans des stratégies de réinsertion et vous voyez des espèces de vertus sociales comme ça de l'association. Et du coup, elle a l'impression qu'elle passe par un biais qui valorise en fait le fait qu'elle emploie malgré tout, vous voyez. Ensuite, dans ces petites descriptions comme ça de c'est quoi leur quotidien avec leur femme de ménage, etc., on rentre plus du coup dans le rapport d'asymétrie socio-culturelle très vite. Et genre, il y en a une qui s'appelle Elsa, et elle raconte que par exemple, son employé de maison habituel, donc elle a décrit comme une, je vous le dis entre guillemets, c'est elle qui le dit comme ça, c'est pas moi, une Marocaine très émancipée. Et il y a une fois où cette Marocaine très émancipée, alors je sais pas ce qu'elle met derrière, mais elle n'est pas là. Du coup, ça va être sa cousine, en fait, qui va être la remplaçante de la dite femme de ménage. Et sa cousine, elle, à ses yeux, elle est moins émancipée parce que bah, elle parle moins bien français et qu'elle est voilée, en fait. Et elle n'arrive pas à lui donner des ordres, du coup. Il y a comme un truc de, du coup, là, c'est trop dissymétrique, je ne peux pas lui donner d'ordre, en fait, parce que en la regardant, bah, ça me met en face, en fait, d'une espèce de truc de statut privilégié, plus qu'avec sa cousine qui était tellement émancipée, vous voyez. Donc, il y a un rapport comme ça qui se crée et où cette asymétrie... dans cette espèce de truc de l'émancipation qui serait visible, et ben ce serait une espèce de gage d'égalité qui atténuerait son rapport de patronne, en fait. Du coup, la question, en fait, c'est le fait de se sentir exploiteuse, clairement. Et du coup, pour elle, ça dépendrait donc en grande partie des représentations que les participantes, elles se font. Quand je dis pour elles, c'est pour Pascal Molinier, hein, pour l'auteur qui les interroge. Ça dépend vachement des représentations que les personnes interrogées, en fait, se font du destin social de leur employé. Et par exemple, quand elles ont l'impression que ça les aide, en gros, dans un parcours de vie, à un moment de leur biographie un peu spécifique, et ben elles ont l'impression d'être dans un truc altruiste ou super légitime. Mais par exemple, quand c'est des personnes qui sont vachement qualifiées dans leur pays d'origine, et ben elles culpabilisent parce qu'elles disent que c'est des personnes qui normalement devraient faire autre chose qu'être femme de ménage. Et elles citent des exemples comme ça, genre elle cite l'exemple d'une Polonaise qui a un diplôme d'opticienne ou d'une Burkine qui est professeure d'histoire dans son pays, etc. Et du coup, là, on voit que ça les dérange vachement le fait qu'il y ait un niveau élevé de qualification, que ça fait quelque chose qui n'est pas logique en fait, d'employer ces personnes-là. Et du coup, la perplexité comme ça qui se dénote de ces nuances comme ça, de comment elles considèrent leurs employés, c'est que finalement, il y a une espèce de truc. En fait, il n'existe pas de profil politiquement correct de la femme de ménage, en fait. Il n'y en a pas. Et donc, pour en trouver un, pour pouvoir le déceler pour chacune, bah en fait, il faut juger de la situation de chacune. Et c'est là qu'on rentre dans cette fonction de la singularité, en fait, de l'individu, qui va faire que, pour pouvoir connaître cet individu, et du coup préjuger ou pas de la validité de comment on peut ou pas employer cette personne, bah, faut créer un lien, puisqu'il faut la rencontrer, cette personne, du coup. Et on rentre à nouveau dans cette ambiguïté du privé, du personnel, dans un rôle quand même d'exploitante et d'employeur, quoi. Ensuite, on en vient à ce que Pascal Molinier nomme l'éloge de la transparence. Alors, l'éloge de la transparence, c'est comment toute elle se gargarise de la capacité qu'une véritable domestique qui travaille bien, bah, c'est une domestique qui ne se laisse pas remarquer, en fait. C'est une domestique qu'on ne voit pas, qui ne laisserait pas de traces, qui ne laisserait pas de... On ne sentirait pas forcément son empreinte chez soi, quoi. C'est-à-dire, le travail est fait, mais il n'y a pas de visibilité de ce travail-là, ou pas comme une marque significative. Et du coup, en gros, ça ne doit pas gêner la vie quotidienne. Et il y a vraiment quelqu'un qui le dit comme ça, il faut qu'elle soit transparente. Elle le dit de cette manière-là. Et les employés, du coup, elles se rendent visibles, souvent, surtout dans la durée, quand justement il y a une espèce de lien de confiance qui s'installe, parce que c'est ça qui va se produire généralement, c'est que les femmes de ménage, après, elles sont des habituées, et il y a un lien de confiance qui s'installe. Elles vont avoir des spécificités de goût, ou de culture, ou de... ou d'objets, même de cadeaux pour dans des relations affectives qu'elles ont avec leur patronne, qui vont être marquantes en fait de leur classe sociale à elles. Et là, il y a un revirement à nouveau de comment en fait, par exemple, il y en a une qui s'appelle Elsa. Elle parle vachement de comment elle a une capacité à cuisiner ou à faire du jardin avec sa femme de ménage comme un truc de partage. Vous voyez, avec un truc vraiment égalitaire de on fait les choses ensemble et c'est bien un. Mais le jour en fait où elle lui ramène un truc, un objet qui va remarquer en fait sa culture et qu'elle va imposer dans la maison en disant bah c'est là que ça va bien ou je sais pas quoi, et ben bah, elle ça lui va pas du tout, elle se sent complètement envahie en fait. Ou au contraire, il y a l'autre version, il y a elle s'en mêle, la femme de ménage, elle propose quelque chose, ça plaît, mais parce que ça plaît, et ben là aussi il y a une notion d'envahissement ou une peur comme ça, du coup jusqu'où ça peut aller si en fait elle arrive à prendre possession de la maison de cette manière-là et qu'elle y arrive bien. Donc dans un cas comme dans l'autre, en fait elle se sent forcément en danger en fait. Et ça sent voilà, que ce soit en gros du bon goût, du mauvais goût, de toute façon, ça va être un symbole de ça prend de la place chez moi. Et ça atteint mon privé, et du coup, ça en prend trop de la place. Du coup, c'est ce qu'on appelle la menace d'intrusion, un peu. Et du coup, les participantes, elles apprécient forcément particulièrement les savoir-faire discrets de leurs employés. Et donc, le travail qui doit disparaître, la personne physique aussi, évidemment, elle ne doit pas forcément être visible. Et du coup, la personnalité des employés, évidemment, en fait, puisque si on ne veut pas qu'il y ait de marque de goût ou de signification de la trace de cette personne-là à la maison, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'elle ici. Donc, il y a vraiment cette illusion comme ça qui plane de comment on peut être proche ou défendre qu'on boit un café avec elle, etc. Et qu'en même temps, on va mettre en valeur le fait qu'elle soit capable de ne pas se montrer, en fait. C'est assez hallucinant. Du coup, le travail domestique, comme tout travail, il nécessite une espèce de type d'appropriation de l'environnement, forcément. Oui, elles travaillent dans un environnement. Cet espace, elles vont forcément l'apprivoiser, puisqu'elles y travaillent. Et là aussi, il y a vraiment une espèce de déconnexion entre la réalité de ce que c'est pour elles et de ce que la patronne va demander. Et le travail domestique, pour être réussi, qui doit être discret à tout prix, il doit le faire du coup sans imprimer le style de vie, ni les caractéristiques personnelles, ni culturelles en fait, de l'employé. Du coup, en gros, il n'y a personne qui peut être complètement satisfait parce qu'une employée, nécessairement, elle va vouloir s'approprier cet espace d'une manière ou d'une autre parce que c'est elle qui y travaille. Et en même temps, la patronne ne voudra absolument pas le voir, quoi. Et cette fameuse poudre à disparaître là, qu'on évoquait un peu plus tôt là, de la transparence de l'employé, il y a Margalit en fait, qui en avait parlé de cette transparence en parlant de relations humiliantes à l'indigène. Et il avait évoqué ça par rapport aux Arabes des territoires occupés en Israël, où il expliquait que justement, il y avait vraiment cette idée d'une poudre qui les rend invisibles, où le bon Arabe dans les territoires occupés, il doit travailler, mais il ne doit pas être vu comme travailleur. Et que ça s'étend comme ça, c'est-à-dire qu'il doit fournir un effort nécessaire pour que leur maître, en gros, puisse les ignorer aisément et en toute sécurité. Du coup, c'est vachement intéressant de se rendre compte qu'il y a un lien ou que ça a déjà été dit dans ces cas-là, parce qu'on en revient vraiment à ce truc d'exploitation, en fait, et de comment, du coup, les gens exploités, en fait, on n'a pas envie de les voir parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous renvoient à notre situation d'exploitant, en fait. Du coup, dans les relations de plus longue durée, en gros, la présence et les expressions personnelles donc, deviennent une menace d'envahissement. Du coup, l'espace est plus protégé et ça, c'est ce qui va devenir le plus compliqué. Et donc, la fameuse poudre à disparaître, eh ben, c'est le fait que la femme de ménage n'arrive de sorte qu'on ne le voit ni qu'on lui parle. Une stratégie utilisée par plusieurs du groupe, en fait, elles décrivent clairement ça. Elles se débrouillent pour partir avant qu'elle arrive à la maison. Elles se débrouillent pour pas la voir, pour pas la croiser, pour être vraiment dans un truc de « on s'ignore, on se calcule pas » et comme ça, c'est plus facile pour moi. Du coup... Il y a dans cette relation comme ça qui perdure, etc., il y a vraiment des cas où elles décrivent... par exemple, il y en a une qui décrit une relation de 10 ans où sa femme de ménage était aussi la nourrice de ses enfants et où il y a eu un rapport, on va dire, à la trahison où la femme de ménage, elle a perdu son mari et la patronne n'est pas venue à l'enterrement. La femme de ménage lui en a tenu un peu rigueur, d'autant qu'après, du coup, elle, pour pouvoir resquiller en fait, de sa responsabilité de ne pas être allée à l'enterrement, a choisi quand même de déménager pour pouvoir éviter d'avoir à poursuivre en fait cette collaboration avec cette femme de ménage. Donc vous voyez qui était quand même la nourrice de ses enfants pendant 10 ans, etc. Donc c'est vraiment tout ce rapport à l'ambiguïté comme ça. Et il y a une sorte d'emprise qui est maintenue, et mais qui est décrite par les patronnes, quoi. C'est les patronnes qui décrivent une emprise des femmes de ménage sur leur vie, quoi. Du coup, on ne peut pas dire que le désir que l'employé s'efface en tant que personne soit le fruit d'une volonté de l'humilier pour la soumettre. C'est pas ça, mais si on l'interprète vraiment dans des relations, dans des analyses un peu habituelles, ça, on sent vraiment des relations entre maître et domestique qui ressemblent à des relations de colons et de colonisateurs, quoi, clairement. Du coup, la dépersonnalisation de la bonne à tout faire, eh ben, ça permet ça, ça permet de pouvoir être exploitant sans s'interroger de trop là-dessus, quoi. Du coup, ces antagonismes-là qui reviennent comme ça entre comment on aime sa femme de ménage et en même temps comment, du coup, on n'a pas envie qu'elle soit là ou pas vraiment, bah, ça fait que la bonne employée, c'est celle qui ne perturbe pas leur psychique des choses, quoi. Et ça marche aussi pour leur physique. Et par exemple, elles n'aiment pas qu'on vienne perturber leur ordre, qu'on vienne leur plier un plaid en quatre correctement ou qu'on leur mette leur petit coussin bien rangé parce qu'elles veulent avoir l'air négligé un petit peu, etc., etc. Il y a toute une terminologie de l'animalité qui revient où elles disent régulièrement marquer leur territoire, par exemple. marquer leur territoire, c'est quand même assez significatif. Et elles le disent à propos des employés, évidemment, pas d'elles-mêmes. Donc, elles, ces stratégies, du coup, elles sont ressenties par les employés, en fait. Et ces stratégies de la transparence que les employeurs, les employeuses utilisent à leur égard, les employés le ressentent, évidemment. Du coup, l'expression du trop de présence des employés prend des formes, culturelles en fonction de leur origine sociale. Et ça, ça remet ça en avant, en fait. Ça fait vraiment une irritation par rapport à un truc de clivage qui remet, en fait, chacun à sa place dans un truc de classe, en fait. Et c'est ça qui met mal à l'aise, en fait, là-dedans. Et évidemment, les dames interrogées, elles s'en défendent, en fait. Elles disent que ça n'existe pas ou pas vraiment, ou elles essayent de faire comme si elles en tenaient compte et qu'elles faisaient attention à ça. Du coup, le quart dans le travail réalisé par l'employé s'exprime évidemment avec plus ou moins de succès et de discrétion dans le soin apporté à l'environnement domestique. Mais le care en tant qu'attention portée à l'employé par son employeuse, parce que c'est ça aussi l'enjeu, ce que je vous dis, c'est vraiment le relationnel de l'une à l'autre, en fait, est en contradiction avec le souhait de dépersonnalisation, et cette tension traverse la plupart du coup des relations décrites en fait par les participantes de la discussion. Donc voilà, en gros, Pascale Molinier nous interroge là-dessus, elle nous amène à nous poser cette question. Et ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, en fait, ça peut jamais marcher clairement et correctement et facilement, quoi. Du coup, pour régler la question de l'exploitation, eh ben, on introduit une espèce de rapport de famille qui est réitéré et qui correspond à l'essentialisation en fait, des femmes. En fait. C'est-à-dire que pour justifier certains des comportements, elles vont dire « ouais, c'est un peu comme si c'était ma mère ». Mais du coup, c'est justement toute l'ambiguïté, c'est qu'à l'origine de cette notion de care, il y a le rôle en fait essentialiste de la mère dévouée, la mère dans le soin, et qui serait un truc naturel et évident et qui aille de soi. Et justement, elle reproduit ça, puisque pour pouvoir intégrer en fait ou accepter les dérives entre guillemets des employés, eh ben, elles vont les assimiler à ce soin que la mère leur apportait, alors que c'est pas vrai, c'est factice, quoi.
Et puis elles sont surtout là pour faire le ménage.
Oui, elles sont là pour faire le ménage, pour des tâches ingrates,
c'est ce qu'on disait avec le care d'affectif. La dernière fois, c'est qu'on est surtout sur une compréhension souvent du care, et même comme ça a été pensé au départ, d'une psychologie féminine ou d'une éthique féminine, alors qu'en fait on est sur des activités, et du coup des activités de prise en charge et de travaux de nettoyage et de, voilà, de tout ce qui concerne aussi les déchets. Et ça, c'est important. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie que ce soit invisible. Il y a pas mal de sociétés les intouchables en Inde, c'est ceux qui s'occupent des déchets ou des morts. Et voilà quoi, c'est hyper symbolique quand même.
Et du coup, en tous les cas, les résistances masculines au partage des tâches, elles sont pas affrontées. C'est ça qu'il faut retenir de cet article. C'est ce qui fait que les femmes de ce groupe, stratégiquement en fait, elles contournent en fait d'affronter ça en fait avec l'emploi d'une femme subalterne. Et que le recours à une femme de ménage afin d'éviter la scène de ménage participe à un déplacement qui permet de tenir la posture féministe dans un féminisme individualiste, c'est-à-dire qu'elles arrivent à se justifier là-dedans, mais en fait qui produira aucun changement social et qui va maintenir une culture qui continue de favoriser les hommes et qui implique une réserve de main-d'œuvre féminine non qualifiée. Du coup, en fait, on entretient ça complètement, quoi. Et c'est ça qu'interroge l'article et je vous invite à le lire.
Eh bien, merci pour cette grande restitution. Et on va se faire une petite pause musicale et on continuera justement sur cette thématique de soins et de travail à la personne. Et alors, qu'est-ce qu'on se met la
on
première?
On se met Zouk Machine, on se met Maldon.
Et pour vous, en café, en
Alors, on revient et on a un peu écourté la musique parce qu'on voudrait quand même laisser la place à l'émission Boogie qu'on a déjà ratiboisé la dernière fois. Alors, du coup, moi, je vais enchaîner sur la même thématique dont tu nous parlais, avec un article qui s'appelle « La malédiction du ballet », qui a été écrit par François-Xavier de Wetter et François Hors. Donc c'est un article qui est paru dans Le Monde diplomatique en septembre 2011 et qui était dans un dossier « Le mirage des services à la personne ». D'ailleurs, oui, j'ai pensé, on ne vous a pas lu, c'est formidable. Je vais vous en lire une quand même parce que c'est vraiment, ça vaut le détour, c'est génial. Donc c'est des, pareil, c'était dans ce dossier en fait. Et c'est des petites annonces pour des services ménagers. Donc ces articles, c'est des discours promotionnels extraits des sites internet de sociétés de services à la personne qui sont dans ce dossier. Et alors, je vais vous en lire un qui s'appelle « Oxygène ». Partenaire du quotidien, notre ambition est de participer à un nouvel art de vie qui permettrait de mener à la fois une vie professionnelle et une vie personnelle épanouie. Ne plus se préoccuper des corvées ménagères, savoir sur qui compter en cas de problème, pouvoir se faire plaisir, consacrer plus de temps à ceux qu'on aime. Ce sont ces valeurs qui nous ont tout naturellement conduit à l'oxygène. La bouffée d'oxygène qui soulage, qui permet de respirer, mais aussi qui apporte des cellules de l'énergie, aux cellules de l'énergie, de la vie, qui symbolise la liberté et le bien-être. Notre ambition, devenir l'oxygène de votre quotidien. Encore une autre qui s'appelle « Du temps pour moi ». Un rythme de travail effréné, une soirée ciné, une compétition de golf le dimanche matin, des déplacements professionnels fréquents, un week-end au bord de la mer ou l'envie de faire les boutiques en toute tranquillité. « Du temps pour moi » simplifie votre quotidien, des déplacements professionnels fréquents. Qui sont plutôt sympas. Et alors... Oui, donc moi je vais revenir donc à l'article dont je vous parlais juste avant, là, la malédiction du ballet, qui est donc un article qui propose de réfléchir aux politiques des services à la personne comme des choix de société et notamment sur le type de politique qu'on a en France qui fonctionne sur le modèle de société où c'est des personnes privilégiées qui sont soutenues et encouragées pour que d'autres personnes les servent et rendent leur vie plus confortable. Un peu sur le modèle des pubs que je viens de vous lire. Et alors, les services à la personne, c'est un domaine vaste qui englobe le soin aux personnes dépendantes ou vulnérables, le travail domestique, le ménage. Et justement, là, on va parler des différentes manières d'envisager ces services en fonction des personnes auxquelles ces services s'adressent. Une manière d'interroger les enjeux économiques et politiques qu'il y a autour des services à la personne, ce serait de se demander comment ils peuvent être publiquement soutenus ou pas. C'est-à-dire plus précisément, et comment la communauté les prend en charge ou pas. Et même si là, justement, il s'agit plus souvent de l'État dans cet article, voilà, je trouve que c'est intéressant de voir ça sur n'importe quel modèle de société, en fait. Et alors, comment ça se passe en France au niveau des choix politiques et économiques? Cet article, La malédiction du ballet, donc comme je vous disais, de François-Xavier de Wetter et de François Hors, nous dit qu'on a depuis le début des années 90 la mise en place d'une politique d'exonération de cotisations sociales sur des emplois familiaux, la réduction d'impôts sur le revenu, la création du chèque emploi-service et en 2005, la création de l'Agence nationale des services à la personne. Alors, je ne vais pas refaire un historique comme Do l'avait fait la dernière fois, mais simplement pour revenir d'un point de départ du début du 19e siècle, on a les gens de maison en fait qui se constituent comme un corps de métier professionnel. Et ce sont des emplois qui ont connu au cours du 20e siècle une baisse de main-d'œuvre, un recours à l'immigration, une féminisation et une multiplication des employeurs. Donc c'est avec le développement du chômage dans les années 90 que le secteur des services à la personne est perçu comme un secteur de création d'activités et d'emplois qui va en fait en France profiter aux plus riches. Puisqu'en fait, toutes les activités réalisées à domicile, qu'elles correspondent à un travail domestique ou à une aide à domicile, bénéficient des mêmes avantages sociaux depuis 2006. Donc en fait, dans l'article, ils font une distinction des types de gestion de ces services dans les différents pays européens selon trois modèles. Le modèle de l'emploi domestique traditionnel des pays méditerranéens, Le modèle marchand avec des sociétés prestataires de services du même style que je vous ai lu les pubs là tout à l'heure. Et puis ce qu'ils appellent le modèle de l'action sociale caractéristique des pays scandinaves, qui lui ne mélange pas en fait les services de confort et d'aide à domicile. Donc souvent la question qui se pose dans les différents pays, c'est comment rendre ce travail bon marché. Et donc pour réfléchir au niveau collectif, à l'organisation et au type de financement du travail des services à la personne, ben eux ils nous renvoient à la définition des services qui peuvent bénéficier de financement. Donc ils font une séparation entre activité de soins et de nettoyage. Ils remarquent que l'appellation des services à la personne correspond en fait à deux catégories ou à deux types de à plusieurs types de services, les services de confort aux personnes aisées et les services d'aide aux personnes fragilisées ou vulnérables, qui sont souvent les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, même si en fait ça peut tous aussi nous concerner à un moment de notre vie. Donc il y a deux logiques qui s'opposent. D'un côté, demander des services pour s'épargner des tâches considérées comme ingrates, et puis d'un autre côté, demander des services parce qu'on est dans l'impossibilité ou la difficulté de maintenir son autonomie. Finalement, un constat qu'on peut faire en France avec cet article, c'est le développement d'emplois sous-payés qui s'opposent à des politiques de développement de services sociaux. Donc ces emplois, ils sont majoritairement occupé par des femmes et un secteur qui s'appuie aussi sur l'immigration. Et avec depuis juin 2008, par exemple, on a des accords qui ont été conclus entre le ministre de l'immigration et le ministre de l'économie. Et donc ces accords stipulent que les immigrés nouvellement arrivés sur le territoire français, par le biais du regroupement familial, seront orientés vers l'ANSP, donc c'est l'Agence nationale des services à la personne dont je vous parlais tout à l'heure, afin d'être formés au métier des services à la personne. Et donc on peut constater que ce modèle des services à la personne, il va s'appuyer sur des inégalités de revenus et pas sur le besoin d'autonomie des personnes dépendantes ou fragilisées dans leur quotidien. Dans quel type de société on veut vivre ? Eh ben, c'est la question qu'on se posait vis-à-vis du care, le fait de prendre soin de soi et des autres. C'est-à-dire une société qui tienne compte de notre interdépendance pour réfléchir des choix de société et envisager plutôt une communauté qui réponde et prenne en compte les besoins de chacun, non pas sur un modèle de la servitude aux plus riches, mais dans un système d'entraide et d'attention des uns aux autres. Ce système d'entraide et d'attention des uns aux autres, elle passe aussi par une reconnaissance et une valorisation de ce type d'activité. Donc ce que veut montrer cet article du Monde Diplomatique là, de septembre 2011, bah, c'est que les politiques actuelles en France, elles favorisent une société qui entretient les inégalités et renforcent l'idée qu'il y a des personnes supérieures dont le temps est plus précieux et qui sont bien rémunérées, et puis une autre partie de la population qui est contrainte à des rôles de serviteurs. Voilà. Du coup les mêmes logiques et les mêmes interrogations qui se posaient dans l'article dont tu parlais juste avant, Do. Voilà, donc c'est fini pour ce dossier sur care, femmes, mondialisation, travail domestique et compagnie. On vous retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Ciao.